écoutez Radio France Internationale, 10h du matin à Paris, 9h en temps universel.
Jeanne Bartoli.
Dans ce journal, nous serons au Liban où la situation se tend ce matin dans le sud du pays alors que l'armée israélienne est censée achever ce soir son retrait du sud du Liban. Des habitants ont tenté de revenir dans leur village. Les forces israéliennes ont ouvert le feu. Il y a 2 morts selon les autorités libanaises. Le retour des déplacés suspendus dans la bande de Gaza, c'était un point de l'accord de trêve entre le Hamas et Israël. Mais l'État hébreu conditionne désormais ce retour à la libération d'une otage civile israélienne. Reportage à Gaza dans ce journal. Et puis également dans cette édition, la République démocratique du Congo, l'armée congolaise et ses alliés continuent de lutter contre l'offensive du groupe armé du M23. Des combats ont eu lieu ce matin au nord de Goma. L'Afrique du Sud confirme de son côté la mort de 9 de ses soldats. De quoi relancer le débat autour de l'engagement contesté de la nation arc-en-ciel en RDC. Au Liban, après l'annonce par les autorités israéliennes du report du retrait de son armée du sud du pays, censé s'achever ce report ce soir selon l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah libanais, la situation a donc dégénéré ce matin dans la partie méridionale occupée. Paul Khalife, vous êtes à Beyrouth. Des habitants ont bravé les interdits israéliens et se sont dirigés vers leur village sous le feu des soldats israéliens. Paul, un bilan encore provisoire fait état de 2 morts et 32 blessés des civils.
Oui, Jeanne, dès les premières heures du matin, des milliers d'habitants du sud ont défié les ordres de l'armée israélienne qui avait interdit l'accès à 60 localités et ont tenté de regagner leur village. À pied ou en voiture, des femmes et des hommes non armés ont forcé les checkpoints de l'armée libanaise et sont entrés dans leur village qu'ils n'avaient plus vu depuis près de 16 mois. Dans certaines régions, les habitants qui brandissaient des drapeaux libanais et du Hezbollah ou encore des portraits de Hassan Nasrallah se sont retrouvés nez à nez avec des militaires israéliens qui ont ouvert le feu pour tenter de les éloigner. Les soldats hébreux ont utilisé des armes automatiques et des obus de tanks pour enrayer ce mouvement de retour inattendu. Dans le secteur central de la frontière, un drone a même largué 2 bombes près d'un rassemblement d'habitants. Surprise par l'ampleur du mouvement de retour, l'armée israélienne a évacué l'intérieur de certains villages et s'est repliée vers les périphéries. L'armée libanaise a, elle, tenté de convaincre les habitants de ne pas avancer de crainte qu'ils ne soient pris pour cible par l'armée israélienne. Les autorités libanaises semblent débordées par les événements. Dans une déclaration postée sur le réseau X, le président de la République, Joseph Aoun, a déclaré partager avec le peuple dans le sud la joie de la victoire, mais a appelé à la retenue et à la confiance dans les forces armées. Le chef de l'État a affirmé que la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban ne sont pas négociables et a dit s'assurer du suivi de ce qui se produit au plus haut niveau afin de garantir les droits et la dignité des habitants du sud Liban.
Paul Khalife, merci. En direct avec nous de Beyrouth, j'ajoute que l'armée israélienne n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat sur la situation au sud Liban, situation évoquée hier par ailleurs par Emmanuel Macron. Il a appelé le président français, les partis, à honorer leurs engagements dans les plus brefs délais. Voilà, déclaration faite par l'Élysée. Autre accord de trêve dans l'actualité à Gaza, cette fois entre le Hamas et Israël, un accord qui entre dans sa 2e semaine. Hier, 4 otages israéliennes ont été libérés contre 200 prisonniers palestiniens. Autre volet de cet accord, les déplacés Gazaouis réfugiés dans le sud de l'enclave attendent de rentrer chez eux dans le nord, mais Israël conditionne désormais ce retour à la libération d'une otage civile israélienne. Écoutez ce reportage à Gaza de Rami Al-Maghari avec Sami Boukhelifa à Jérusalem.
Nous attendons que le passage vers le nord rouvre. Rawan et sa famille, originaires de Shujaïa à Gazaville, trépignent d'impatience. Nous allons rentrer à pied. Je rêve de ce moment depuis 1 semaine et l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, raconte la jeune femme. Dès l'aube, ce samedi, la famille a démonté sa tente et espère la replanter plus au nord, sur les ruines de son ancienne maison détruite. Mais pour y parvenir, il faut traverser Wadi Gaza ou le couloir de Netzarim, toujours contrôlé par l'armée israélienne. En théorie, les forces d'occupation doivent se retirer de ce point de passage dimanche. Mais ce repli est incertain, s'inquiète Hassan. Il y a environ 1 million de personnes, des déplacés, qui tentent de remonter vers le nord et qui sont bloqués ici à Khan Younes. On attend le feu vert de l'armée israélienne pour pouvoir passer. Mais ce samedi soir, l'armée a repoussé cette foule de déplacés en tirant des coups de feu. Pas de quoi décourager le jeune homme qui souhaite retrouver sa famille restée à Gazaville et dont il est séparé depuis 15 mois. La première chose que je ferai sera de serrer ma mère dans mes bras. Ensuite mon père, puis ma sœur et mon frère. Pour permettre ce retour, le Hamas doit d'abord libérer Arbel Yehoud, une otage civile israélienne, exige Israël. Elle sera relâchée la semaine prochaine, indique le Hamas. Rami Al-Merari, Gaza, Sami Bourkifa, Jérusalem. RFI.
Gaza où Donald Trump aimerait bien faire le ménage. Ce sont ces mots devant des journalistes. Le président américain a assuré avoir demandé au roi de Jordanie, Abdallah II, d'accueillir plus de Palestiniens. Je regarde la bande de Gaza telle qu'elle est aujourd'hui et c'est le bazar. C'est un vrai bazar. J'aimerais qu'ils prennent des gens. Voilà ce qu'a dit très exactement Donald Trump, affirmant que l'Égypte devait faire de même et ce temporairement ou à long terme pour obtenir la paix. Une excellente idée pour le ministre d'extrême droite israélien Bezalel Smotrich, une idée qui encourage les crimes de guerre, fait savoir le djihad islamique. À l'instant, le Hamas dit que les Palestiniens feront, je cite, échouer l'idée de Trump de les relocaliser. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui concernant la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Emmanuel Macron a lui appelé hier à la fin immédiate de l'offensive du M23 et des forces rwandaises ainsi qu'au retrait de ces dernières du territoire congolais. C'était lors d'entretiens téléphoniques séparés avec Paul Kagame, le président rwandais, et Félix Tshisekedi, le président congolais. C'est ce que fait savoir l'Élysée. Alors que les affrontements se poursuivent autour de la ville de Goma. Hier soir, l'armée sud-africaine a, elle, confirmé la mort de 9 de ses soldats, de quoi relancer le débat autour de l'engagement des forces sud-africaines en RDC. La correspondance de Joséphine Klockner.
L'armée sud-africaine, la SANDEF, a confirmé dans la soirée la mort des 9 soldats. 2 faisaient partie de la MONUSCO et 7 de la mission de la SADEC lancée en décembre 2023. Le déploiement de ces près de 3000 soldats en RDC avait alors été vivement critiqué au sein de la population sud-africaine et par plusieurs partis d'opposition qui estiment que l'armée du pays n'est pas équipée pour une telle mission. Des critiques qui ont refait surface cette semaine. Le parti Alliance démocratique, qui fait partie du gouvernement d'Union nationale mais qui n'approuve pas la politique militaire du pays, dénonce un budget étranglé, laissant les soldats avec une formation insuffisante et des équipements obsolètes. Il a appelé samedi au retrait des troupes sud-africaines de la RDC. Le syndicat militaire SANDOU a aussi dénoncé dans un communiqué le peu de transparence de l'armée concernant la situation et les pertes en RDC, un manque de respect pour les soldats morts au front selon lui, qui entache la confiance en l'armée. Joséphine Klockner, Johannesburg, RFI.
Les Biélorusses appelés aux urnes aujourd'hui pour la présidentielle. Alexandre Loukachenko brigue un 7e mandat après le scrutin de 2020 fortement contesté dans la rue. Le dirigeant de Biélorussie avait réussi à se maintenir au prix d'une très lourde répression. Depuis, le pays s'est engagé avec la Russie dans la guerre en Ukraine. Minsk est soumise à de lourdes sanctions internationales et les opposants ont pour beaucoup fui à l'étranger. C'est le cas de Pavel Latouchka, diplomate et ancien ambassadeur et ministre biélorusse. Il vit aujourd'hui en exil.
Ça n'est pas une élection, c'est un simulacre d'élection. Il est impossible de parler d'élection dans un pays, la Biélorussie, où il y a des milliers de prisonniers politiques, pas 1300, mais des milliers, parce que beaucoup d'entre eux n'obtiennent pas le statut de prisonnier politique, craignant d'être torturés dans les prisons où ils sont enfermés. Des candidats de la présidentielle précédente sont toujours en prison. Tikhanovski, Babariko, tous les médias indépendants ont été liquidés. Plus de 50% des organisations non gouvernementales, 1800, ont été liquidées. Les 11 partis d'opposition ont été liquidés. Il y a un climat de peur et de terreur. Tous les jours, il y a des arrestations. À l'instant même, j'ai lu sur Telegram que 20 chauffeurs de poids lourds avaient été arrêtés à leur retour d'Europe pour la seule raison qu'ils s'étaient abonnés à des médias indépendants. Dans ce climat de peur et de terreur, il est impossible d'organiser une élection. Non, ça n'est pas une élection.
Pavel Latouchka, joint à Varsovie par Anastasia Becchio. Enfin, les sports, c'est en ce moment la finale de l'Open d'Australie. L'Italien Yannick Sinner, tenant du titre, affronte Alexander Zverev. 2 jeux partout pendant le premier set. Hier, chez les dames, c'est l'Américaine Madison Keys qui a remporté son premier grand chelem et privé Sabalenka d'un triplé. 10h10 à Paris. Tout de suite, c'est la suite de mon programme. Vous restez à l'écoute de la Radio du Monde.